Radio France Internationale.
Micro. Micro. Microscopie. Suite. Suite. Microscopie. Suite. Édouard Zambo.
13h, j'entre dans la cantine. Et avec le même badge qui me permet de prendre l'ascenseur, je vais payer mon repas.
Bonjour, je veux un steak haché, s'il vous plaît.
Avec quoi? Avec du riz et des haricots verts. Bonjour. Donc je paye avec ma carte spéciale. Donc là, là sur votre ordinateur, vous savez comment je m'appelle là maintenant?
Je n'avais pas regardé, mais oui. Leclerc Aline.
Donc vous savez comment je m'appelle et ce que je mange. Merci.
On se retrouve pour la seconde partie de ce microscopie consacré à un état des lieux de la défense des libertés publiques au moment où la Commission nationale informatique et liberté rend son rapport plutôt sévère, il faut le dire, et où la Ligue des droits de l'homme publie aux éditions de la Découverte son état des droits de l'homme en France intitulé Une société de surveillance. Microscopie tente de faire le point pour savoir si nos libertés individuelles régressent beaucoup, un peu, pas du tout, devant les coups de canif infligés au nom des politiques de sécurité et des avancées technologique, on l'a vu dans la première partie de cette émission. Pour nous accompagner et nous éclairer, nous sommes donc toujours en compagnie de Jean-Pierre Dubois, professeur de droit public au passage à l'Université de Paris 11 et président de la Ligue des droits de l'homme. Il n'y a cependant pas forcément besoin de grandes avancées technologiques pour confectionner des fichiers regorgeant d'informations confidentielles, fausses, voire diffamatoires sur les gens. Bien sûr, au premier rang de ces fichiers qui inquiètent, il y a les fichiers policiers, comme l'a montré la polémique au moment de la tentative de mise en place du fichier Edwige. Mais avant, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a pris le temps de nous livrer en quelque sorte un musée des horreurs, des informations débusquées dans des fichiers privés, commerciaux, ceux-là qu'elle a contrôlés. Ainsi, on peut être qualifié au hasard comme ayant un petit accent rebeu, se faire traiter de gros boulet, tout ça est entre guillemets, de gros connards aussi, de voleurs. On peut apprendre dans un fichier commercial que le mari d'une cliente est avocat et qu'il faut donc s'en méfier. On notera aussi des informations judiciaires, notamment qu'un proche est en prison, et bien sûr des informations médicales visant par exemple à ne pas prêter d'argent à une personne gravement malade, c'est évident. Autant d'exemples donc constatés par la CNIL, dont on peut retrouver le rapport sur son site, je le rappelle, c'est www.cnil.fr. Jean-Pierre Dubois, votre musée des horreurs, à vous, quelles sont les pires informations, les plus incongrues que vous avez découvertes?
C'est difficile de faire un classement, mais il faut revenir à l'instant sur Edwige. Je rappelle quand même que dans Edwige, qui reprend de mauvaises habitudes de renseignements généraux, il y avait les origines, je cite, ethniques et raciales. Je mets des guillemets, même si je parle, parce que la République ne reconnaît pas les races. C'est dans l'article 1er de la Constitution. Qu'est-ce que c'est que des policiers de la République qui fichent des races que la République ne veut pas connaître? Et je ne sais pas à quoi ça sert de savoir qui est maghrébin, noir, jaune, blanc, etc. On fiche aussi les homosexuels.
On va le détailler, le fichier Edwige. Mais est-ce que c'est pire de voir ces informations informatisées? Finalement, on peut dire que ces fiches de police, elles existent depuis l'invention de l'écriture.
C'est la France qui a inventé ça. C'est sous Louis XIV qu'on a commencé à faire un fichier des mendiants, des prostituées, des gens qui pensaient mal. Vous voyez, ce sont déjà les mêmes catégories. Simplement, je vais prendre un exemple très simple. La pire horreur en France, ça a été le fichier des Juifs sous Vichy. Si l'outil informatique avait existé, c'est pas 75 000 Juifs qui seraient morts, c'est 500 000. Parce que le fichier des Juifs, comme le fichier des RG encore aujourd'hui, ce sont des fiches cartonnées qui sont dans les préfectures. Et tout ce que peut faire le ministère Place Beauvau, c'est faire un appel informatique pour savoir où est la fiche de X ou de Y. Edwige, c'est autre chose.
C'est l'industrialisation, c'est ça.
Oui, on passe de la deux chevaux à la Ferrari, c'est un fichier national informatisé. D'un seul appel, en une seconde, vous avez la fiche de n'importe qui. Et ce fichier était accessible à plus de 200 000 personnes. Le porte-parole Madame Alliomari m'a dit le contraire pendant je ne sais combien d'émissions de télévision et il a fini par reconnaître la vérité. Tout policier ou gendarme, sur simple autorisation de son supérieur hiérarchique, pouvait y avoir accès. Donc ça veut dire que des données extrêmement sensibles, y compris des données dont la conservation est illégale, étaient immédiatement accessibles à plus de 200 000 policiers ou gendarmes. Ce n'est pas admissible dans une démocratie.
Bon, à propos des fichiers policiers, je vous propose, comme prévu, d'écouter le président de la Commission nationale informatique et liberté, qui est chargé, la commission, de veiller à ce que, on va le dire comme ça, l'informatique reste au service du citoyen et ne porte pas atteinte aux droits de l'homme. Alors, dans son rapport rendu le 13 mai dernier, la CNIL livre ses conclusions d'une enquête importante, très importante enquête qui a été faite autour d'un autre fichier de police qui s'appelle le fichier STIC, pour système de traitement des infractions constatées. Alors, le fichier STIC, très vite, on va en parler, c'est une base de données qui répertorie toute personne qui a été concernée par une procédure judiciaire, c'est-à-dire des crimes, des délits ou des contraventions diverses et variées, qu'elles soient, c'est là où ça devient important, mises en cause ou victimes. Donc, il y a à peu près 26 millions de personnes, je crois, inscrites au fichier STIC. 29. Après avoir enquêté dans la moitié des parquets et des commissariats de France, pendant un an et demi, la Commission nationale informatique et liberté, par la voix de son président Alex Turc, livre au micro d'Aline Leclerc des conclusions qui sont pour le moins inquiétantes.
Depuis que la CNIL existe en 30 ans, il n'y avait jamais eu de contrôle global des données du STIC. Chose que nous avons faite, qui nous a pris un an et demi. Parce qu'il faut aller dans les parquets, il faut aller dans les commissariats et dans les ministères partout en France. On s'est rendu compte que, d'une manière générale, les procureurs n'assuraient pas l'actualisation en temps réel des données du STIC. Prenons un exemple concret. Vous avez été impliqué dans une affaire, mais finalement votre affaire est classée sans suite. Très logiquement, le jour même, le procureur doit s'adresser au STIC pour dire « enlevez monsieur un tel » parce qu'il a été totalement lavé de cette affaire. Or, ils ne le font pas. Ce qui fait qu'il y a des milliers, on a calculé que c'était plus d'un million de personnes, qui restent dans le STIC de manière non justifiée. Or, beaucoup de ces personnes ensuite vont faire une demande au STIC tout simplement parce qu'elles sont en demande d'emploi de sécurité. Par exemple, vous allez accéder à un emploi à Roissy, vous êtes dans le dernier carré, vous avez une bonne chance d'être recruté. L'employeur doit s'adresser au préfet en disant « Voilà, monsieur un tel a postulé, on compte le recruter, mais nous devons faire la vérification prévue par la loi de savoir s'il est dans le fichier STIC ou pas. » Il faut que le préfet fasse la vérification. Ça, je conteste pas qu'on le vérifie. Moi, je vous cache pas que si j'apprenais que quelqu'un est dans un réseau terroriste et accède au tarmac à Roissy, ça me rassurerait pas. Donc, je trouve ça légitime. Mais si vous êtes dans le fichier, vous ne pouvez pas avoir l'emploi. Donc si vous y êtes de manière non justifiée, vous perdez un emploi ou vous ne l'obtenez pas, alors que vous n'y êtes strictement pour rien. Et ça, c'est, en termes de protection des libertés, c'est absolument insupportable. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui.
Mais quel est le problème majeur? Est-ce que c'est un problème d'actualisation ou est-ce que c'est un problème, au départ, de qualification?
Les deux. Ce qui vient du ministère de l'Intérieur, c'est des erreurs à l'origine.
Ça veut dire quoi? Une personne, imaginons, je porte plainte comme victime et puis finalement je me retrouve accusé.
En mise en cause, exactement. Ça arrive très souvent. Puisque c'est des lettres, c'est Q et E, si je me souviens bien.
Selon Q et E qui différencient le mise en cause de la victime.
Donc vous comprenez bien qu'il peut y avoir des erreurs de saisie, il peut y avoir des homonymies. Puis après, un petit peu plus gênant, on a constaté que dans la pratique de tous les jours, les responsables, dans les commissariats par exemple, ne respectaient pas les règles fixées par la loi et par les règlements. C'est-à-dire, l'habilitation des personnels n'est pas vraiment respectée. Donc il y a des gens qui entrent dans le fichier et ne devraient pas y entrer. On a constaté qu'il manquait de discipline en ce qui concerne les mots de passe. On a vu parfois des post-it en bas des écrans. Bon. Donc là, la réflexion c'est de dire, il n'est pas normal qu'on ne suive pas avec plus de précision les exigences de la loi.
Ça veut dire que beaucoup de monde peuvent consulter un peu facilement ces fichiers?
Alors, beaucoup de monde en tout cas, pas n'importe qui, mais que effectivement on ne contrôle pas réellement que n'y accèdent que les autorités dûment habilitées. En revanche, pour ce qui est de la justice, c'est le fait que les parquets n'actualisent pas comme il le faudrait en temps réel pour beaucoup d'entre eux.
Ça fait des années qu'on en parle, ce fichier STIC et des problèmes qui sont liés, et finalement ça n'avance pas.
Avec une grande différence, c'est que il n'y avait jamais eu de contrôle global. Maintenant, pour la première fois, les ministères sont face à leurs responsabilités. Avant, on supputait, on évaluait à partir des résultats au coup par coup qu'on avait en droit d'accès. Un jour là, un jour ailleurs. Tandis que maintenant, c'est très différent. On a une vision globale. Donc on peut espérer maintenant un progrès parce que tout le monde a vu quels étaient les problèmes et reconnu. Je n'ai pas une seule fois entendu les représentants du ministère de l'Intérieur, par exemple, contester le résultat. Ils nous ont dit, il y a des raisons qui expliquent, mais on ne conteste pas ce que vous avez vu. Alors ceux de la justice ont dit très récemment qu'il y avait eu de notre part une extrapolation. Alors, il ne faut pas être un grand caïd des statistiques pour savoir que quand on extrapole de 50% à 100%, le risque d'erreur est extraordinairement faible. La vérité, c'est qu'on peut citer nous, des parquets où il n'y a eu aucune mise à jour du tout. Alors, on demande tout simplement à ce que désormais les procureurs fassent le travail le plus vite possible. S'il manque de matériel, il faut leur donner. Si c'est un problème de respect de la loi, il faut rappeler les consignes. Même chose au ministère. Nous attendons maintenant que les deux ministères nous expliquent quels sont leurs projets pour essayer de régler cette question.
Jean-Pierre Dubois, vous devriez sauter de joie et t'as toute la Ligue des droits de l'homme derrière vous quand vous entendez le président de la Commission nationale informatique et liberté tenir des propos pareils, des mises en garde pour la moralisation et la remise dans les clous de ces fichiers.
Ah oui, nous sommes très contents d'entendre ça, d'autant plus que M. Turc est par ailleurs sénateur d'hiver droite, qu'il a longtemps été membre de l'UMP, et que donc on ne peut pas le suspecter d'être au service de l'opposition. Ce qui est un peu dommage, c'est que la CNIL a trois fois moins de moyens que son homologue allemand.
132 salariés, 400 en Allemagne.
Ah oui, et ce qui est un peu dommage aussi, c'est que jusqu'en 2004, elle pouvait bloquer un fichier de police, alors qu'une loi de 2004... dont malheureusement M. Turc était le rapporteur au Sénat, lui a retiré ce pouvoir. Donc nous sommes extrêmement contents que...
Ce que vous dites, c'est qu'il y a un double langage ?
Non, nous sommes très contents.
C'est pour amuser la galerie, ça ?
Non, je pense simplement que la CNIL et notamment M. Turc ont pris conscience de la gravité de la situation. Ils sont bien placés pour ça.
Et le gouvernement...
Nous travaillons avec eux et nous sommes très contents de ce travail avec eux.
Cette enquête a été possible, c'est en soi un bon nouvel, non ?
En effet, on n'a pas encore empêché la CNIL de faire son travail. Peut-être ce sera pour l'année prochaine. Pour le moment, les autorités indépendantes ont leur restreint leurs moyens et leurs pouvoirs. On ne les empêche pas totalement d'agir. Ce qui va se passer, c'est que le STIC et son homologue Judex en gendarmerie vont être fusionnés avant la fin de l'année.
Oui.
Un nouveau fichier qui s'appelle Ariane va être constitué. Et nous allons voir si derrière les mots, il y a des actes. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, tous les jours, il y a des gens devant le tribunal correctionnel qui sont condamnés parce qu'on dit qu'ils sont défavorablement connus des services de police à cause du STIC. Et c'est pas seulement des gens qui travaillent dans les emplois de sécurité, c'est tous les candidats à un concours de la fonction publique qui sont aussi victimes du STIC. Parce que si vous voulez avoir l'idée de mélanger 29 millions de personnes dans lesquelles il y a ceux qui sont soupçonnés, ceux qui sont condamnés, ceux qui ont été mis en cause et qui finalement sont innocents, mais ça fait rien, ils restent quand même coupables, et les victimes, il fallait quand même avoir un cerveau assez étrange pour avoir conçu cet outil-là. C'est un outil gigantesque. La moitié des Français sont au STIC et ils ne savent pas ce qu'on raconte sur eux.
Qu'est-ce qu'il faut pour y entrer au STIC ?
Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'avoir été mis en cause par la police. Mis en cause par la police ou la gendarmerie, sans même une instruction judiciaire, sans une poursuite du parquet, sans un procès quelconque. Il suffit qu'à un moment donné, un policier ou un gendarme ait considéré que vous étiez peut-être mêlé à quelque chose. Soit comme témoin, soit comme victime, soit comme soupçonné. Et après, comme l'a très bien expliqué M. Turc, normalement ça devrait être effacé, ça ne l'est pas faute de moyens. Mais il faut bien comprendre, la base c'est le soupçon, c'est le contraire de la présomption d'innocence. Il suffit qu'on dise, peut-être que c'est lui, vous y êtes, et vous pouvez y rester des années à votre insu. Nous demandons qu'on crée un référé vie privée qui permette d'exiger d'un juge, en quelques jours au maximum, l'accès à tous les fichiers qui vous concernent. Moi je veux que chaque personne ici puisse savoir ce qu'on raconte sur elle, un droit d'accès direct et un droit de rectification. C'est quand même la moindre des choses de lutter contre ce qu'on ne peut analyser que comme un système de calomnie d'État.
La commission parlementaire qui s'est penchée sur la question faisait 57 propositions, si ma mémoire est bonne, et parmi celles-là, demandait que les personnes qui sont inscrites dans ces fichiers soient pour le moins prévenues, parce qu'on ne le sait même pas quand on est dans
ces
fichiers.
Tout à fait. Fichiers. Cette commission a fait du bon travail. Il y a des choses avec lesquelles nous sommes en désaccord, d'autres avec lesquelles nous sommes en accord. Elle est allée plus loin que ces 57 propositions. Elle a fait une proposition de loi qui a été adoptée à l'unanimité, il y a un mois, par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Je vais être auditionné par cette commission. Et donc, je pense que, puisque les parlementaires ont récupéré un peu de leur ordre du jour, à l'automne, il y aura discussion d'une grande loi sur les fichiers. Et nous allons voir si ce qui est dans la proposition de loi va passer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été obtenues grâce aux mobilisations contre Edwige. Par exemple, l'idée qu'il faudra une loi pour créer un fichier de police. Autrement dit, on ne pourra plus le faire dans la clandestinité. Je rappelle qu'au départ, le gouvernement ne voulait même pas publier l'avis de la CNIL sur Edwige.
Il y a 58 fichiers de police aujourd'hui, ouais, dont un quart serait illégaux.
Oui, c'est extrêmement difficile à savoir parce que on a d'abord dit 40, puis 50. J'ai même entendu à un moment donné 62, 63. En réalité, personne ne sait vraiment parce qu'une partie de ces fichiers sont littéralement clandestins. Par exemple, qui connaît le fichier Canonge qui classe les suspects dans les opérations de police en fonction de leur couleur de peau, de leur apparence, où on voit des choses du genre maghrébin, noir, nord-africain, etc. Ce sont des choses qui ont été faites de manière totalement illégale. Canonge, c'est le nom d'un policier qui a inventé cette chose-là. Personne n'a jamais vérifié, ni la justice, ni le Parlement, ni qui que ce soit d'autorisé. Autrement dit, on peut avoir des classements totalement racistes, totalement inconstitutionnels, sans aucun contrôle.
Il y a un autre fichier là, dont on a un petit peu parlé, c'est le fichier Amélie, qui est le fichier de l'antiterrorisme.
Oui, on aime bien les prénoms de filles, ça fait plus doux.
Ça fait plus doux, effectivement. Mmh. Justement, comment est-ce qu'on rentre sur le fichier? On l'a vu hein, avec l'affaire de Julien Coupa et du groupe de Tarnac. Ben comment moi, rentre-t-on dans un fichier des terroristes?
Il y a un an et demi, il y a un malheureux employé de Roissy, M. Turc faisait allusion à ce genre de problème, qui s'est retrouvé accusé d'être un dangereux terroriste d'Al-Qaïda. On lui a retiré son autorisation d'accès au Tarnac, ce qui veut dire qu'il a été instantanément licencié, puisque sans autorisation d'accès, il perdait son emploi. Tout ça parce qu'il avait eu un différend avec son beau-frère, qu'il avait dénoncé comme dangereux terroriste. Alors évidemment, il s'appelait Mohamed, donc il y avait des raisons assez fortes de penser qu'il était d'Al-Qaïda, n'est-ce pas? Et à cette occasion-là, on a découvert que le sous-préfet qui délivre les autorisations d'accès sur le tarmac de Roissy refusait ces autorisations, je cite le sous-préfet lui-même, pour d'autres raisons que l'ordre public. Et on n'a jamais su quelles étaient ces autres raisons que l'ordre public. Au nom de quoi on peut priver quelqu'un de son emploi pour d'autres raisons que l'ordre public?
C'est-à-dire que tout ça est assez subjectif.
Tout ça est parfaitement subjectif, parfaitement arbitraire et parfaitement incontrôlé. Nous comprenons très bien que pour l'antiterrorisme, pour les problèmes de sûreté nationale, on ne puisse pas faire des contrôles publics. Mais dans beaucoup de démocraties, y compris aux États-Unis, il y a des commissions parlementaires habilitées avec des gens qui feraient serment. Ces commissions parlementaires qui devraient comporter des parlementaires de la majorité et de l'opposition devraient pouvoir avoir accès à tout et devraient pouvoir garantir qu'il n'y a pas, au nom de l'antiterrorisme ou de la sécurité, des choses profondément choquantes qui se font sans que nous le sachions.
On est plutôt bons ou mauvais élèves en termes démocratiques en France?
Ça dépend par rapport à quels autres pays. Il y a en France un très vieux culte du fichage et de la surveillance par l'État.
Par rapport aux démocraties comparables, aux démocraties occidentales?
Nous sommes beaucoup moins bons que les Allemands, ça c'est sûr, parce que les Allemands, ils ont eu une expérience du nazisme, et donc ils sont très attentifs, notamment en Allemagne, vous pouvez faire un recours direct au juge constitutionnel pour protéger vos libertés, ce qui n'est pas le cas en France. Donc par rapport à l'Allemagne, sur certains points par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Espagne aujourd'hui, nous sommes souvent moins bons, parce qu'en gros, depuis 15 ans, c'est toujours plus pour la police par rapport au parquet, pour le parquet par rapport au juge indépendant du siège. Bref, il y a une espèce de dérive qui va toujours plus dans le sens de la surveillance et de la répression, parce qu'il y a la pression de l'extrême droite. Le phénomène Le Pen a complètement modifié la manière dont les politiques gèrent les questions de sécurité en France.
90% des dossiers traités par la CNIL, des plaintes qui sont déposées à la CNIL, concernent des fichiers privés. Est-ce que vous ne vous trompez pas un peu de combat en focalisant sur les fichiers de police?
Non, on ne se trompe pas de combat, on mène les deux. Les fichiers de police sont dangereux, les fichiers privés aussi, et dans la résolution...
Les exemples que je donnais tout à l'heure, c'est des qualifications, c'était dans des fichiers privés et
commerciaux. Bien sûr, dans la résolution que nous venons d'adopter à notre congrès la semaine dernière, il y a une partie sur les fichiers d'État, une partie sur les fichiers privés. Mais ça se rejoint. Pendant l'année 2008, trois fonctionnaires de police ont été condamnés pour corruption. Ils avaient refilé des fichiers à des sociétés privées. Et voilà, exactement.
Et donc,
je ne dis pas du tout que c'est la majorité, mais c'est extrêmement grave, parce que vous comprenez, quand vous ouvrez un fichier à 200 000 fonctionnaires, forcément, sur ces 200 000, il y a des brebis galeuses. Hein. Plus le nombre est grand, plus les risques sont grands. Et il y a, en réalité, collusion. Et je dois le dire, malheureusement, il y a des gens qui sont des conseillers auprès de hautes autorités sur la sécurité, qui sont en même temps des experts et qui sont en même temps des patrons de boîtes de sécurité. Et donc, il y a une espèce de mélange sur le sécuritaire entre les intérêts commerciaux, politiques, et de même qu'il ne faut pas, je crois, que les élus politiques s'aventurent trop sur les yachts des grands patrons. Je crois qu'il faut qu'ils choisissent quelquefois leurs experts ailleurs que dans ceux qui ont des intérêts.
Justement, à la frontière de l'espace public et de l'espace privé, il y a le second sujet très prégnant en matière de liberté publique en ce moment, c'est la vidéosurveillance. Elle gagne de nombreuses villes françaises. Alors, les chiffres diffèrent selon les sources. À titre d'exemple, en mars dernier, on va prendre la mairie de Paris, qui est quand même la plus grande ville de France. La mairie de Paris a approuvé un plan d'installation de 1226 caméras supplémentaires dans les rues de la capitale. Alors, c'est évidemment un plan qui satisfait Michèle Alliot-Marie, la ministre de l'Intérieur, qui, elle, veut tout simplement tripler le nombre de ces engins sur le territoire français. Une augmentation qui est défendue évidemment par, vous y faisiez peut-être référence il y a quelques minutes, Alain Bauer, qui est conseiller du président de la République et aussi consultant en matière de sécurité. Il est évidemment grand défenseur de la vidéosurveillance, qu'il préfère d'ailleurs appeler vidéoprotection.
À Paris, il y a beaucoup de caméras, mais elles ont des missions très spécifiques. Les caméras du périphérique sont là pour la circulation. Une partie des dispositifs installés à la RATP sont là pour permettre que les gens ne soient pas coincés dans les portes des métros lorsqu'ils roulent. Et beaucoup de dispositifs qui existent sur la capitale ou un peu ailleurs d'ailleurs le sont pour des motifs d'exploitation traditionnelle et pas de sûreté, c'est-à-dire la lutte contre la malveillance. Donc il s'agissait de mettre un peu d'ordre dans le dispositif et surtout de régler une partie des problèmes qui étaient les trous noirs et les zones non couvertes. Donc la préfecture de police a fait un excellent travail de réflexion et d'analyse dossier par dossier avec des sortes de mini-enquêtes publics permettant de voir ce qui était important et ce qui ne l'était pas, à la suite de quoi il doit y avoir un programme mis en place par la préfecture, l'État et la ville sur un certain nombre d'espaces dont on sait qu'ils sont des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de terrorisme. Et c'est ce qui explique le processus mis en place. Donc il y aura à Paris une augmentation considérable des caméras mises en place pour la sûreté. Mais il s'agit là plus de remplir des espaces qui n'étaient pas couverts, alors même qu'il y a des éléments de criminalité qui démontrent qu'une caméra pourrait avoir un effet soit préventif, ça arrive, soit dissuasif et parfois purement répressif, notamment pour la reconstruction des mouvements qui ont précédé un attentat.
Alors ça, justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs, de sociologues, et puis y compris, on cite souvent l'exemple de ce responsable de la police de Londres qui disait que l'installation de vidéosurveillance à Londres était un fiasco, parce que finalement, ça permettait pas de lutter contre la délinquance. Vous vous dites que si, il y a des effets de la vidéosurveillance contre la délinquance.
Bien sûr, je lis les mêmes documents, mais à la différence de les autres, je les lis complètement, y compris le collègue britannique donnait de très nombreuses explications sur pourquoi un système qui n'était ni régulé, ni ordonné, et qui avait été essentiellement analogique, ne permettait pas d'être efficace parce qu'il fonctionnait avec des vieilles cassettes vidéo et que les policiers passaient plus de temps à convertir les cassettes vidéo analogiques en numériques, ce qui expliquait la faiblesse du système, et qu'en contrepartie, les mêmes caméras avaient été extrêmement utiles pour savoir qui avait organisé les attentats de Londres en juillet 2005. Les nombreuses études britanniques et américaines expliquent que la situation est très complexe, très différente de ce qu'on avait imaginé. D'abord, dans un espace clos, les caméras sont extrêmement efficaces, dans un parking, par exemple, un parking souterrain, à la fois pour rassurer les personnes et pour garantir une sanctuarisation de l'espace. Elles le sont beaucoup moins quand elles sont installées au fil de l'eau et n'importe où, surtout quand des gens peuvent contourner le dispositif en utilisant, par exemple, puisque c'est un autre sujet à la mode, une cagoule. Donc en fait, les études qui ont été publiées montrent à quel point les problématiques sont diversifiées et que les caméras, ça ne fonctionne intelligemment que quand on a un espace, un objectif et une chaîne d'intervention qui permet de les rendre utilisables. C'est très exactement ce qui est indiqué. Ça ne marche qu'en sur-mesure et pas en prêt-à-porter.
Mais est-ce que quand on installe des caméras pour surveiller justement un endroit où on pense qu'il y a des trafics ou une délinquance importante, est-ce que plutôt que de résoudre ce problème, on n'a pas tendance plutôt à le déplacer ailleurs, à un endroit où il n'y a pas de caméra?
C'est indiscutable, c'est ce qu'on appelle l'effet plumeau, mais la démonstration qui a été faite de l'évolution de l'effet plumeau, c'est que les gens allaient plus loin que ce qui était imaginé et moins nombreux que ce qui était imaginé. Donc, sur l'endroit dont vous vouliez vous occuper, eh bien, au moins vous aurez résolu un problème. Deux, le fait que l'État décide de faire des plans d'ensemble est peut-être de nature justement à étendre les effets du dispositif de manière plus intelligente que simplement repousser légèrement la question. Troisièmement, en tout état de cause, le problème essentiel dans cette affaire, c'est pas la caméra, mais c'est l'agresseur. Et il faut pas oublier que c'est pas la caméra qui agresse le citoyen, c'est l'agresseur qui agresse une victime, et pas les caméras qui résolvent tout. Bien au contraire, les caméras ne sont qu'un outil dans une chaîne qui doit commencer par une analyse détaillée de la problématique et qui doit être soumise à un strict contrôle éthique, déontologique et citoyen, pour qu'elle soit à la fois efficace et pas trop intrusive.
Mais quand on voit en France des petites villes de quelques centaines d'habitants qui se dotent de dizaines de caméras, est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine disproportion ?
Ce n'est pas un problème de taille. Quand une ville fait un diagnostic précis du problème, un dialogue public sur la nature du problème, la manière d'y répondre, et qu'ensuite elle installe ou pas des caméras dans une logique claire avec sa police municipale ou la police nationale ou les deux, avec un comité d'éthique ou de contrôle citoyen, elle a fait son travail de ville et c'est aux électeurs de savoir si ça leur plaît ou si ça ne leur plaît pas. Après tout, c'est quand même eux qui décident. Et ni les journalistes, ni les experts, ni les criminologues sont plus intelligents ou plus légitimes que les citoyens qui votent.
Jean-Pierre Dubois, ce sont les citoyens qui votent pour les caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection d'ailleurs ?
On n'a jamais demandé l'avis des citoyens sur ce sujet. Il faut être sérieux, revenons aux faits. Je vais vous en citer un seul. Il y a aux États-Unis des dizaines de villes qui sont en train de démonter tout leur système de vidéosurveillance, notamment la ville de Miami, qui est une des plus dures en matière sécuritaire, et tout le monde sait le nombre de trafic qu'il y a à Miami. C'est tout simplement parce que ça ne sert à rien et que ça coûte très cher. Le rapport de Scotland Yard l'an dernier, contrairement à ce qui vient d'être dit, conclut sur le fait que ça n'est pas un outil efficace.
Nous a pourtant dit que les terroristes de Londres avaient été arrêtés
grâce... Ah oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'attentat, n'est-ce pas, à Londres. La réalité, c'est qu'on ne les a pas arrêtés, on les a vus le lendemain de leur suicide. Voilà la réalité. Le lendemain, on a pu voir le visage de ceux qui s'étaient fait sauter. Ça a dû beaucoup consoler les familles des victimes. C'est vraiment stupide, cette histoire. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui va commettre un attentat, vous voyez pas quelqu'un qui porte un grand badge « Je suis un terroriste et je vais commettre un attentat ». Vous avez une caméra dans le métro qui surveille des centaines de milliers de personnes et il y en a un qui passe au milieu. En revanche, il y a quelqu'un qui est mort dans le métro de Londres. C'est un jeune Brésilien qui avait un sac à dos. Et la caméra de vidéosurveillance a fait penser à un policier qui dissimule des explosifs et on a tiré sur lui avant qu'il ait eu le temps de se défendre. Pourquoi ? Ce jeune homme était innocent et il est mort. Voilà à quoi servi la caméra, oui. La réalité, c'est que quand vous mettez une caméra quelque part, bah, les gens qui ont envie de commettre un vol ou un crime, ils vont juste un peu plus loin. Je pense qu'un enfant de 10 ans pourrait le comprendre. Mais évidemment, si on comprend ça, on prive des gens qui ont de très gros intérêts financiers de marchés considérables.
À titre indicatif, j'indique aux auditeurs que le nombre de recours devant la Commission nationale informatique et liberté a été multiplié par 2. En 2 ans, 4244 plaintes ont été reçues en 2007. Très vite, Jean-Pierre Dubois, c'est le signe de la prise de conscience ou c'est le signe que la situation s'aggrave ?
C'est les deux. La situation s'aggrave, le nombre de gens visés est de plus en plus grand et donc il y a plus seulement les militants habituels des droits de l'homme, il y a des gens qui découvrent ce que nous commençons à subir et c'est bien parce qu'il faut réagir avant qu'il ne soit trop tard.
Vous aurez du boulot. Hein. En 2008, la CNIL a enregistré à titre indicatif encore 2588 nouveaux systèmes de vidéosurveillance en France et la ministre veut les augmenter, multiplier par 3 je crois. Jean-Pierre Dubois, merci de votre visite dans le studio de Microscopie pour nous alerter sur ces dangers, sur ce que vous considérez être l'état des droits de l'homme en France. Pour ceux qui veulent en savoir plus, hein, je vous renvoie évidemment au livre publié par la Ligue des droits de l'homme, l'état des droits de l'homme en France, une société de surveillance avec ou sans point d'interrogation. C'est à vous de décider si vous le laissez à la fin de cette émission. C'est aux éditions La Découverte. Des références que vous retrouverez évidemment, comme d'habitude, sur la page de Microscopie, sur le site de RFI.fr, à la rubrique Microscopie. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez donc, je vous l'ai dit, vous rendre sur le site de la Commission nationale informatique et liberté, c'est www.cnil.fr, et bien sûr, sur le site de la Ligue des droits de l'homme, c'est www.ldh-france.org. Dans quelques secondes, vous retrouvez l'ensemble des infos du monde grâce à un journal complet de la rédaction d'RFI. Bonne semaine à tous. Au revoir.